Bien, bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau partage. Ce soir, je fais le partage seul, c'est-à-dire seul avec le Seigneur, le Saint-Esprit. Et les gens qui m'écoutent à la maison, exceptionnellement, les gens ont eu des soins d'empêchement, soit un autre. Donc, on veut saluer les gens qui sont sur Internet, évidemment, les gens qui sont habitués de nous écouter. On vous salue, les gens de Radio Prédication. Et puis, on veut saluer notre beau papa aussi qui a toujours un plaisir à nous écouter en différé. Donc, salutations à mon beau papa, ma petite sœur Hélène aussi, qui prend soin de papa. Et puis, ma famille, mes petites sœurs, Carmen, Lynn, Nicole. Et puis, on demande pardon à tous ceux qu'on oublie. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et puis, on est content de vous avoir avec nous pour ce prochain partage. Si vous voulez, on va prier, on va remettre ça au Seigneur. Et puis, on va commencer. Mais Père, on veut te dire merci. Je veux te dire merci, Seigneur, pour ce prochain message qu'il va y avoir. Père, je te prie pour que tu mettes tes mots dans ma bouche, parce que sans toi, je ne peux rien faire. Seigneur, je veux te demander pardon pour toutes mes iniquités, pour tous mes manquements. Seigneur, je ne te mérite pas. Mais par ta grâce, par ton amour, tu m'as choisi et tu as fait que je peux avoir cette relation avec toi par ton Fils. Seigneur, je veux te dire merci. Merci d'avoir rendu cette aventure incroyable avec toi possible. Merci pour tout ce que tu fais pour chacun de nous, Seigneur. On veut te prier pour que tu places les gens devant nous, pour qu'on puisse être des dispensateurs de ta grâce, Seigneur. Ce soir, on te demande par ton Saint-Esprit de venir nous visiter puissamment pour qu'on puisse voir avec les yeux de notre cœur, qu'on puisse avoir notre entendement qui va être ouvert, Seigneur, qui va être ouvert sur l'éternité. On te demande de venir enlever ce qu'il y a de mauvais en nous, Seigneur, de le remplacer par ta portion. Et puis, pour faire de nous des ambassadeurs de Christ dignes de ce nom, pour que le nom de Jésus soit glorifié à travers nos vies. Amen. Vous vous souvenez qu'on avait vu au dernier partage, dans les mains du potier. Oh, ça, des fois, c'est pas facile, hein? On peut se sentir des fois pressé, soit de l'intérieur, soit de l'extérieur. Et puis, des fois, on se demande, on se pose des questions sur des situations qui arrivent dans notre vie. Bien sûr, comme je le disais, il y a des situations qui arrivent parce qu'on n'a pas fermé des portes et puis qu'on a donné du pouvoir on a laissé entrer des choses qu'il fallait pas. On n'était pas branché sur notre éternel Seigneur. Mais il y a aussi des situations par lesquelles que Dieu va permettre qu'on soit formé, qu'on soit préparé pour le ministère. Et puis j'aime cette expression dans les mains du potier, pardon. On a oublié de saluer Claire et Nathan. On salue Claire et Nathan aussi qui sont avec nous. À distance, dans les mains du potier, c'est accepter que le Seigneur nous façonne et nous travaille dans différents aspects de notre personnalité. Et puis, il y a plusieurs aspects que le Seigneur peut travailler au travail, dans la famille, dans les amours, dans notre vie privée, à l'église, dans nos relations avec nos amis. Et puis, il y a différentes situations qui vont faire que le Seigneur va venir faire un travail et puis qu'il va venir mettre des choses en évidence. Et puis, il veut épurer ça. Tu sais, on avait parlé de l'or aussi, puis de comment les façons qu'il comparait que l'or et l'argent étaient épurés, c'était passé par le feu, hein. Souvent, le Seigneur va nous faire passer par le feu pour faire sortir, parce que souvent, avec les années, on devient des chrétiens avec des masques, hein. On met nos masques, on dit les paroles qu'on doit dire. On dit pas nécessairement ce qu'on pense, on dit pas nécessairement ce qu'on ressent dans de nous, mais on est des très bons acteurs chrétiens, hein. Je pense que c'est dans la communauté chrétienne qu'il y a de meilleurs acteurs. Franchement, là, on est des bons acteurs, je pense. Et je m'inclus là-dedans. N'oubliez pas que quand je prêche pour moi, hein. Quand je vais consulter le Seigneur, c'est pour moi, premièrement. Et puis, je donne les messages qu'il me donne. Et puis, j'essaie d'en tirer le meilleur pour pouvoir continuer ma marche avec lui, et j'espère que c'est la même chose pour vous. Donc, dans les mains du potier, dans les mains du potier. Des fois, c'est, tu sais, le Seigneur, il disait, est-ce que l'argile va dire au potier que fais-tu? Des fois, on a tendance à vouloir se plaindre des situations qu'on vit, ou des choses qui nous arrivent, puis le Seigneur compare ça, c'est comme si l'argile disait au potier, Mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? J'aime l'image. Fait que non, je pense qu'on doit accepter ce que le Seigneur permet dans nos vies en confessant Romains 8, 28, qui dit que tout ce qui nous arrive concourt à notre bien. Dans l'original, vous savez que c'est travail ensemble pour notre bien. Et puis, Noiraud, il veut rentrer, mais je ferme la porte de ma chambre. Et puis, il aime pas ça. Et puis, parce que je voulais être tranquille, justement, parce qu'il pense que je lui parle quand que je fais des messages. Donc, aujourd'hui, nous voulons dire merci au Seigneur pour être dans les mains du potier. Nous voulons dire merci au Seigneur d'être dans ses mains. Et puis, nous voulons qu'il nous façonne pour pouvoir être de façon à être des vases d'honneur, hein, parce qu'il y avait un verset qui nous disait que dans une maison, il y avait des vases d'honneur, il y avait des vases vides, mais je donne la permission bien volontiers à notre Seigneur de me façonner pour devenir un vase d'honneur dans sa maison. Amen. Donc aujourd'hui, on commence une série que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je ne sais pas comment ça va être long, mais j'ai quand même, c'est quand même des choses qui sont importantes. Des choses qui sont importantes parce que les choses que le Seigneur nous dit qui sont importantes dans notre vie chrétienne, des choses qui sont importantes dans notre façon de se comporter, dans ce que nous sommes vraiment. Et puis, les deux, le titre, ça va être l'humilité et la grâce. Et puis, on va commencer avec l'humilité. Comment c'est important aux yeux du Seigneur d'être des serviteurs humbles. Parce que l'inverse, vous savez que l'inverse, c'est l'arrogance. Et puis l'arrogance vient de l'ennemi. Il vient pas de Dieu. Et puis c'est pour ça que le Seigneur, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 1 Pierre 5, 5. Dans tous vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Mettre le manteau de l'humilité dans toutes les situations. Et puis ça, c'est un travail qu'il faut demander à Dieu de faire parce que naturellement, on est orgueilleux. Tout le monde, on est orgueilleux, les êtres humains. Et puis, c'est la source de bien des maux, je devrais dire. C'est la source d'à peu près tous les maux qu'il y a dans le monde aujourd'hui. L'orgueil. On va développer là-dessus un peu aujourd'hui. Pardon, le message sera pas tellement long, mais quand même, il y a des versets qui sont puissants. Puis il y a des versets qu'on doit s'imprégner. Donc, le message d'aujourd'hui, ça va être vraiment pour le méditer cette semaine. Et puis, on va continuer mercredi prochain sur les thèmes. Donc, le premier verset que je vous cite, c'est 1 Pierre 5, 5. La version, je vous dirai la partie B. Et dans tous vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Savez-vous qu'est-ce que c'est, ça? Se revêtir d'humilité, c'est ce qu'on appelle croître dans la grâce. Hein, on entend ça souvent, cette expression-là. Croître dans la grâce. Mais qu'est-ce que ça veut dire, croître dans la grâce? C'est d'apprendre à se revêtir d'humilité. C'est développer notre humilité puis notre foi à travers notre vie chrétienne. Hein? Parce qu'on sait que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'orgueil nous conduit directement à la liste des choses que Dieu méprise. Est-ce que vous avez déjà lu la liste des choses que Dieu méprise? En Proverbe 6, versets 17 à 19, je vous invite à tourner avec moi et puis d'aller voir dans le livre des Proverbes, au chapitre 6, versets 17 à 19, on va voir les choses que Dieu méprise, que Dieu haït, que Dieu est. Dans l'original, c'est que ce que Dieu est. Et je pense qu'il commence par dire 6 et même 7. Donc, le premier, c'est les yeux hautains. Les yeux hautains, dans l'original, c'est l'arrogance. Donc, l'arrogance, c'est se placer au-dessus de ce qu'on est vraiment. Vous savez que la définition de l'orgueil, une des meilleures définitions de l'orgueil que j'ai déjà jamais entendue, c'est celle-ci. C'est être orgueilleux, c'est se placer dans une position au-dessus de laquelle nous sommes vraiment. Et puis, vraiment, c'est ça l'orgueil, et c'est ce que l'ennemi Satan veut faire. Il voulait aller s'asseoir à la place de Dieu, sur la montagne sainte, s'asseoir à la place, sur le trône. Et puis, c'est pas vraiment sa place. Et puis, c'est cette partie-là qu'on a reçue de lui par notre chair, qui veut toujours s'élever. La chair veut toujours s'élever par rapport aux autres. Donc, la première chose dont on aurait tendance à dire qu'elle cause toutes les autres, comme dans Galates 5:22, où ça dit l'amour, le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour, et de lui découlent tous les autres fruits de l'esprit. Eh bien, dans les choses que Dieu est, la première, c'est l'arrogance, et on pourrait dire que l'arrogance, découle les autres choses qu'on va vous dire. On ne les verra pas toutes ce soir. On va en voir quelques-unes. Mais la première, c'est l'arrogance qui est... C'est sûr qu'on va développer sur l'arrogance ce soir. Mais la deuxième, qu'est-ce que l'arrogance va souvent entraîner? C'est la langue fausse, le mensonge. C'est... parce que je me suis placé dans une position, souvent je vais mentir pour ne pas perdre cette position. Mais on va voir tout ce que le verset dit. Donc, c'est les yeux hautains, la langue fausse, les mains qui versent le sang innocent, les cœurs qui machinent des projets d'iniquité, les pieds qui s'hâtent à courir au mal, les faux témoins qui profèrent des mensonges, et celui qui sème des querelles entre les frères. Voici les choses que le Seigneur est. Donc, on devrait, par crainte de l'Éternel, les gens qui produisent ces choses-là, ou quand on va tomber, ça va arriver qu'on va tomber hein, dans la vie chrétienne, et puis ça va arriver qu'on... Ben, la crainte de l'Éternel nous amène, nous exhorte à nous repentir, parce qu'on sait que ces choses-là déplaisent beaucoup aux yeux de notre Seigneur. Dieu veut que nos vies soient édifiées dans sa présence, par sa présence, pour être des dispensateurs de sa grâce. Pour ça, l'orgueil doit être mis de côté. Donc, l'orgueil est un destructeur. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'orgueil, l'arrogance, c'est un destructeur des œuvres de Dieu. Donc, continuons. Dans le Proverbe 16:18, dans les deux versions, j'ai la version Darby et j'ai la version Louis II, l'orgueil va devant la ruine et l'esprit hautain devant la chute. Dans l'autre version, ça dit l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Ça, vous voyez que l'arrogance et l'orgueil, c'est deux choses qui sont étroitement liées ensemble. Donc, regardez des personnes qui ont agi par orgueil, puis sont toujours eu du dommage dans leur vie. Il y a toujours eu du dommage dans leur vie. Quelqu'un qui a agi sur l'effet de l'orgueil ou sur l'effet de l'arrogance, en étant arrogant ou en étant orgueilleux, c'est sûr qu'il y a une chute qui a suivi. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui est arrivé par après, qui est arrivé une ruine dans sa vie ou il est arrivé une chute. Et puis, je suis sûr que si vous pensez à des situations, vous allez en trouver. Peut-être que vous avez vécu vous-même, que vous avez été orgueilleux dans une situation et que vous avez perdu quelque chose. Et que la situation, tout s'est écroulé parce que, puis Dieu va l'acheter à terre. Dieu va jeter ça à terre parce que Dieu n'est pas là-dedans. Dieu est dans l'humilité. Donc, le Seigneur, il veut qu'on soit ancré dans la vérité. Mais la première chose que l'orgueil va venir déphasé dans ma vie chrétienne, c'est la vérité. Donc, on a vu que les deux premières choses que le Seigneur est, on a vu que c'était l'arrogance, l'orgueil. Ensuite, c'était, souvenez-vous, le mensonge, la langue fausse. Donc, la première chose que l'orgueil, que le premier effet dans ma vie chrétienne, dans la vie chrétienne des gens, que va avoir une attitude orgueilleuse puis une attitude arrogante, ça va produire le mensonge. Donc, c'est un signe d'orgueil, le mensonge. C'est parce que les gens veulent pas se montrer vraiment où ils veulent manipuler, ils veulent arriver à leur fin. Pour pas perdre la face, ils vont mentir. Parce qu'ils sont orgueilleux. Au lieu de se repentir, ils disent « Oui, j'ai péché. Je me suis trompé. Je vous demande pardon. » Ben, au lieu de faire ça, la personne, elle va se mettre à manipuler les gens autour. Elle va se mettre à compter des mensonges pour gagner. Pour ne pas perdre la face. Et quelle destruction quand la personne agit comme ça. La personne va manipuler les gens autour d'elle pour aller gagner des gens à sa cause, alors que ce n'est pas vrai. Mais on voit que c'est un signe de l'orgueil, c'est un signe de l'arrogance, Qu'est-ce que ça produit? Ça produit le mensonge. Donc, l'orgueil est trompeur. Abdias, chapitre 1, verset 3. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. L'autre version dit, l'arrogance de ton cœur t'a séduit. Donc, on doit méditer ces choses, à savoir que quand on est porté à compter un mensonge d'une situation, c'est parce qu'on est orgueilleux quelque part. Qu'on n'est pas prêt à confesser quelque chose, tout simplement, de confesser, de demander pardon. On confesse, on demande pardon, on continue. Sinon, la destruction, la ruine s'amorce. Le mensonge, on commence à distribuer le mensonge, et puis là, savez-vous quoi? Dieu va venir mettre le mensonge en lumière. Quand que si je veux pas me repentir de quelque chose, puis que Dieu voit que je suis en train de faire des choses qui honorent pas son Saint-Esprit qui vit en moi, Dieu va les mettre en lumière. Vous savez que on peut pas, Galates 6-7, on se moque pas de Dieu, hein? Ce qu'on a semé, on va le récolter. Et puis si on a décidé par orgueil de dispenser le mauvais royaume, puis de commencer à compter des mensonges pour gagner des gens à notre cause, ben à ce moment-là, Dieu va venir puis il va mettre le mensonge à jour. Et puis là, ça va être pire. Ça va être encore pire que s'avoir repenti tout de suite. Puis de dire, ben, vous savez, quelle situation compliquée qui devient compliquée. Ben, avez-vous vu comment la situation peut dégénérer au lieu de dire, oh, je vous demande pardon, je pensais telle affaire, mais je me suis trompé, puis j'aurais pas dû faire ça, je vous demande pardon. Fini! C'est fini! Les personnes vont dire, ah ben, c'est correct, tu sais. Mais non. Pour ça, je vais commencer à mentir, parce que je veux pas me repentir, parce que je suis arrogant, puis je suis orgueilleux. Au lieu d'avouer ce que j'ai fait, puis de me repentir, je vais continuer de mentir pour pas que les gens s'aperçoivent que ce que mon cœur avait planifié de faire. Mais vous savez que c'est une chose que Dieu est et que Dieu va me mettre en lumière. Et puis si j'opère des choses comme ça dans ma vie chrétienne, oui, je vous confirme que vous allez être dans les mains du potier et que le Seigneur va s'en servir pour vous façonner, pour vous rendre plus lisse et puis pour vous édifier. Et puis ces choses-là sont pas bonnes dans votre vie, il va les mettre à jour, puis il va les enlever. Donc, c'est la volonté de Dieu qui vit en nous de se développer dans des choses honorables, pas dans des choses déshonorables, dans le déshonneur, pas dans le mensonge. La fierté et l'arrogance, ça apporte la disgrâce. Ça apporte le mensonge. Ça apporte la manipulation. C'est tellement lisse tout ce que ça peut produire. Proverbe 11, chapitre 11, verset 2, ça nous dit, quand vient l'orgueil, la honte vient aussi. Dans l'autre version, ça dit, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Là, la personne, pour pas perdre la face, elle va être prête à faire n'importe quoi, puis elle va se démener, là, comme juste pour pas avouer qu'elle a été mise à jour. Mais il est trop tard, le Seigneur l'a mis à jour. Il reste seulement qu'à se repentir. Mais la fin du verset, ça dit, mais la sagesse est avec les hommes modestes. L'autre version, ça dit, mais la sagesse est avec les hommes humbles. Si je persiste dans mon arrogance et dans mon orgueil, je vais aller de souffrance en souffrance et je vais faire souffrir les autres autour de moi. Le Seigneur n'a rien à faire avec l'orgueil et l'arrogance et puis il ne traitera pas avec ça. Il va la mettre à jour et je vais devoir revêtir l'humilité dans ma vie si je veux cheminer, avoir une vie chrétienne satisfaisante. Je dois revêtir le manteau de l'humilité. Amen. On continue. Mais notre Seigneur, il veut pas que son nom soit déshonoré, puis que nos vies soient détruites par l'orgueil, parce que ça détruit l'orgueil, mais l'orgueil mène l'homme à sa perte. D'autre part, L'humilité, c'est un trait de caractère que Dieu aime à développer en nous. Il aime à développer à ce qu'on soit, qu'on devienne des gens humbles. On prend l'exemple de Moïse, hein? Moïse, là, quand il est sorti de l'éducation avec dans la famille qui avait été adoptée, il était fort. C'était vraiment. C'était quelqu'un d'un personnage qui était fort, qui était, avait beaucoup d'influence. Puis, quand il est arrivé, puis il a décidé là, qu'il serait un serviteur de Dieu, puis qu'il voudrait servir pour son peuple, la première chose qu'il a faite, il a tué un Égyptien avec sa force. Mais vous savez, il a passé 40 ans dans le désert, Moïse. Dieu a formé son caractère, son humilité pendant 40 ans. Parce qu'il y avait un grand ministère qui l'attendait. Et puis l'orgueil et puis l'arrogance n'a rien à voir dans le ministère de Dieu. À rien. Je ne peux pas cheminer d'aucune façon avec l'orgueil et l'arrogance. Quand je ne suis pas capable de me repentir dans les situations, Dieu ne pourra pas m'utiliser. Dieu recherche les hommes et les femmes humbles. Il y a plusieurs termes, il y a plusieurs versets qui abordent, que Dieu aborde l'humilité, hein? On a vu tantôt dans 1 Pierre 5, 5. Mais dans Proverbe 16, 19, ça dit, mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Souvent, 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 l'orgueil et l'arrogance, c'est des gens qui est des gens qui, la Bible dit, qui accumulent des richesses. Des richesses ici. C'est des gens vraiment là, qui sont orgueilleux, qui sont arrogants. C'est des gens pour qui accumuler des richesses, accumuler de l'argent, accumuler du pouvoir, c'est très important, c'est leur chose la plus importante. Mais Dieu dit, hey, hey, c'est pas avec ceux-là qu'il faut que tu recherches. Il dit, c'était mieux d'être avec les humbles, les gens qui sont humbles, de partager le butin avec les orgueilleux. Le Seigneur, il nous révèle que nous sommes mieux étant une personne humble, étant associée avec des gens modestes, plutôt que de partager des richesses qui sont souvent acquises par des orgueilleux et des arrogants. Moi, je veux remercier le Seigneur pour ce message-là, parce que je vis des choses présentement. Et puis, le Seigneur, il est fidèle, puis il me montre des choses là-dedans. Puis, vous savez quoi? J'ai souvent, dans les décisions que j'ai à prendre, bientôt, je vais avoir à choisir les humbles ou les orgueilleux. Puis là, le Seigneur, il vient de me confirmer quelque chose. Il dit, reste avec les humbles. Laisse faire les richesses, laisse faire les personnes arrogantes, les personnes qui manipulent, les manipulateurs, puis les gens qui sont prêts à tout pour arriver à leur fin. Aussi dit le Seigneur, dans Matthieu 5, 3, ça c'est une belle découverte que j'ai faite dans mon étude, que je vais continuer aussi là-dedans. Aussi, le Seigneur dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Dans l'original, les pauvres en esprit, c'est les gens humbles. C'est les gens humbles, les amis. C'est une expression qui est pour désigner les gens humbles, puis les enfants de Dieu. Les gens qui sont dépourvus dans ce monde ici, mais qui sont riches en spiritualité. Donc, c'est pour ça que le Seigneur dit, heureux les pauvres en esprit, heureux les humbles, car le royaume des cieux est à eux. Ici, on nous dit que l'humilité, c'est une bénédiction parce que le royaume spirituel du règne de Dieu, les dispositions du Dieu de Dieu sont données aux humbles, aux gens humbles. Imaginez. Qu'est-ce que je veux des richesses ou des richesses? Est-ce que je veux des richesses de ce monde ou je veux des richesses du royaume de Dieu? C'est la question que je vous pose aujourd'hui. De quelle richesse que je veux? Quel est mon trésor? Dans Ésaïe 57, verset 15, Ésaïe chapitre 57, verset 15, ailleurs Dieu a révélé, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Vous savez, notre Seigneur, là, il est à la position la plus élevée. On ne pouvait pas avoir un plus grand exemple d'humilité que ça, que le Seigneur nous a montré. Parce que nous avons celui qui était à la position la plus élevée, Jésus-Christ, qui était assis sur son trône, à la droite de Dieu, puis qui a quitté son trône, qui est venu se faire homme, lui qui était saint, sans tache, qui est venu prendre les insultes, prendre le paiement qui nous était réservé, le châtiment qui nous était réservé, payer à notre place. Y a-tu un exemple de plus grande humilité que ça? Pourtant, lui, il était roi, c'était le roi. C'était le grand Dieu. Mais ça nous dit, la parole nous dit dans Isaïe ici, qu'il aime les esprits humiliés, qu'il aime les cœurs contrits. Le Seigneur est à la position la plus élevée dans sa demeure céleste, mais il habite aussi avec les vies humbles et brisées sur la terre afin de les bénir spirituellement. On peut pas fabriquer l'humilité, hein? On peut s'en revêtir. On peut choisir de ne pas répondre aux initiations d'orgueil et aux initiations d'arrogance. On peut choisir de revêtir l'humilité. Mais vous savez quoi? Ça se produit pas avec la chair, ça. Ça va être le résultat d'une relation réelle qui se révèle au fur et à mesure que j'apprends à connaître mon Seigneur dans une relation personnelle avec lui. Puis c'est dans cette relation que Dieu va me donner l'opportunité puis la possibilité de revêtir son humilité pour pouvoir le servir. Parce que Dieu n'a pas besoin d'orgueilleux puis d'arrogants dans son ministère qui veulent s'élever. Hein? Moi, j'ai des images pendant que je vous parle d'hommes qui se sont élevés dans l'Église. L'homme a toujours voulu s'élever à la place de Dieu. Hein? Et puis, ils deviennent des gens charismatiques, des gens, des idoles qu'on adore. Mais où sont les hommes, les serviteurs humbles que nous parle la Bible, qui dit qu'ils sont parmi nous, pas au-dessus de nous? Donc, cette humilité, je ne peux pas la produire, je ne peux pas produire ça moi-même. Impossible. Je dois, au fur et à mesure que je vais développer ma relation avec Dieu, avec Jésus, que je vais apprendre à connaître mon Seigneur, il va m'être de me donner, de m'humilier, parce que on va voir plus tôt, on va voir plus loin dans les versets, je pense que j'y arrive, là. C'est arrivé à Isaïe. Plus que je développe ma relation personnelle avec Dieu, plus que je me rends compte comment est-ce que Dieu est saint, puis comment que Dieu est grand, puis comment que je suis rien à côté de lui. À Isaïe, il a dit, moi, je suis perdu. il a eu une vision du Seigneur. Le Seigneur, il a fait de la grâce de le voir. Et puis, il voyait le Seigneur, on va voir tantôt dans le verset, il disait, quand il a fini de décrire ce qu'il avait vu, il dit, je suis perdu. C'est impossible, tu sais, je ne peux pas, j'arrive pas, je serai jamais à la hauteur de mon Seigneur. Et on y arrive justement, à ce passage-là. Isaïe, il a eu la révélation, puis je pense que vous irez le lire, là, c'est Isaïe chapitre 6, versets 1 à 4. Là, il décrit qu'est-ce qu'il a vu. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Puis là, il décrit ce qu'il voit. C'est tellement grand, c'est tellement beau. Puis au verset 6, au verset 5, alors il dit, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Juste le fait d'avoir vu le Seigneur, comment le Seigneur était grand, comment le Seigneur était saint, comment le Seigneur, c'est indescriptible, je peux pas vous décrire ça, mais je veux juste essayer de vous faire sentir ce qu'Isaïe a ressenti, juste le fait d'avoir cette vision-là, ça, lui-même a dit, hey, je suis perdu, c'est impossible d'approcher un si grand Dieu, puis une si grande sainteté. Mais le Seigneur dit que lui est avec les cœurs humbles, malgré sa position la plus élevée qui existe. Je suis avec les gens qui ont des cœurs humbles. Mais vous voyez, Isaïe ici, puis là, c'est l'image que je vous donne. Quand on a une relation avec notre Seigneur personnel, et puis qu'on avance dans notre relation, on commence à connaître notre Seigneur, on commence à le voir dans toute sa grandeur, sa magnificence, et puis sa sainteté. Et puis là, nous autres ici, on dit, Seigneur, je t'en mérite pas vraiment, tu sais. Je suis jamais capable d'être à la hauteur. Je suis jamais, tu sais, on se voit tellement. Puis là, ça nous donne de revêtir l'humilité. Quand que je touche au Seigneur, quand je vois mon Seigneur dans ma relation, là, je vois comment moi je suis. Comment je suis l'argile. Je me vois vraiment comme l'argile, puis rien d'autre. Et puis là, ça me permet de pouvoir revêtir cette humilité et puis de commencer à servir Dieu avec un cœur humble. Puis quand le Seigneur a été révélé dans toute sa gloire, Isaïe a répondu avec une profonde humilité. Il a dit, moi, je suis perdu. Je ne suis qu'un homme dont les lèvres sont impures. Ça peut se produire dans nos vies aussi, dans notre relation profonde avec notre Seigneur. Et puis, plus qu'il va être révélé à nous, plus qu'on va voir comment il est grand, puis plus que notre réponse va être de plus en plus humble, parce qu'on va s'approcher de la montagne, comme on dit, de la montagne sainte. Donc, c'était notre première étape sur l'orgueil et l'arrogance aujourd'hui. Comment l'orgueil et l'arrogance sont des destructeurs, et puis comment ils sont à l'opposé de ce que Dieu veut pour ma vie, et comment je peux revêtir mon humilité. L'humilité que la Bible me parle, c'est en développant ma relation avec le Seigneur, en m'approchant de la montagne sainte. Et puis là, je n'aurai pas peur de dire, hey, écoutez, je me suis trompé. J'ai pas fait la bonne chose, je vous demande pardon. Au lieu de commencer à manipuler les gens autour de moi et à leur mentir pour essayer de sauver la face. C'est en m'approchant de mon Seigneur que je vais être capable de réagir différemment. Puis vous savez, ce que je veux vous rappeler, que l'orgueil et l'arrogance, la première chose que ça va produire dans ma vie, c'est le mensonge. Donc, c'est un signe. Quand j'ai pas le goût de dire la vérité, là, pardon, quand je m'apprête à dire un mensonge, mais vous savez pourquoi la Bible dit que c'est l'orgueil qui en est le pourvoyeur, c'est l'orgueil qui en est la source. C'est mon orgueil et mon arrogance qui me pousse à mentir. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas un message de condamnation, c'est un message d'exhortation, d'enseignement. Et puis, quand on commence à avoir une vie, quand on a une vie donnée, ça nous dérange pas d'appeler les choses par leur vrai nom, puis d'aller voir dans la Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit pour nous redresser, puis pour nous exhorter, pour marcher. Pourquoi? Pour plaire à Dieu. Rien d'autre que plaire à Dieu. Et puis, si vous voulez, on va prier ensemble, on va demander à Dieu, on va se repentir pour toutes les fois où que notre orgueil nous a produit une attitude misérable, puis méprisable autour de nous. On va demander au Seigneur qu'il nous apprenne à mépriser ça, la fierté puis l'arrogance, puis d'incorporer l'humilité dans notre croissance, dans notre vie chrétienne. Et puis, on va demander de Seigneur de produire ces fruits-là dans nos vies. Et puis, pour que son nom soit glorifié. Mais Père, on veut te dire merci pour ce message ce soir. Seigneur, on veut te demander pardon pour cette arrogance, pour cet orgueil qui est en nous, que nous avons reçu à la chute, Seigneur, et qui sont toujours la source de destruction, de mépris et de division. Seigneur, on veut te demander pardon pour toutes les fois qu'on a obéi à ces mauvaises choses, à l'orgueil et à l'arrogance. On te demande pardon pour toutes les fois qu'on a produit des choses méprisables avec les choses, par les décisions qu'on a prises. Et puis, on veut te demander de nous permettre de revêtir ce manteau de l'humilité, Seigneur. Qu'on puisse être des gens de l'argile dans tes mains, Seigneur, des gens humbles qui puissent te servir, qui puissent que tu puisses manifester ta présence dans des vases d'honneur, des vases humbles qui puissent t'honorer, Seigneur, dans toutes tes voies, dans toutes nos voies. Et puis on te demande de produire ça dans nos vies pour que le nom de Jésus soit glorifié, Seigneur, pour qu'on puisse être des serviteurs utiles. Le sel et la lumière, Seigneur, pour que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Merci beaucoup.